Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une histoire dont je suis certain que vous gardez un souvenir sans doute un peu confus. C'était en 2009 dans l'Essonne, au sud de Paris. L'enlèvement et l'assassinat d'une joggeuse qui s'appelait Marie-Christine Odo. Et cette histoire a marqué parce que elle a alimenté à l'époque le débat sur la récidive et que le président de la République, Nicolas Sarkozy, s'en est emparé. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Cette histoire commence par une scène stupéfiante, unique, du jamais vu. Le 28 septembre 2009, à 9h12 précisément, le téléphone sonne à la gendarmerie de Milly-la-Forêt, dans l'Essonne. Un gendarme décroche, c'est son premier jour. Et il n'est pas prêt d'oublier ce premier appel de sa carrière. Gendarmerie nationale, bonjour.
Allô ? Allô, on est en train de m'enlever. Je m'appelle Marie-Christine Odo. Et un homme avec un couteau m'a mis de force dans le coffre de sa voiture. C'est une Peugeot 106. Et dans son immatriculation, il y a les lettres L, K et M. J'étais en 6 sur école, à côté de Milly-la-Forêt. La voiture s'arrête. Vite! Aidez-moi!
Et là, le gendarme médusé entend au téléphone le bruit d'un coffre qui s'ouvre, d'un coup, et puis plus rien. La pression sur les épaules de ce jeune gendarme. Il court voir ses supérieurs. Il y a eu un enlèvement. Une femme qui s'appelle Marie-Christine Odo, H-O-D-E-A-U, je pense, mais j'en suis pas sûr, elle vient de m'appeler depuis le coffre d'une voiture où elle était enfermée. On est tout près de Paris, c'est la section de recherche de Paris qui se met sur le coup. Immédiatement, deux gendarmes foncent vers Milly-la-Forêt. Et puis on installe un PC à la gendarmerie du coin. Une équipe est mobilisée pour fouiller les bois alentours. Des chiens débarquent. Et très vite, la garde républicaine à cheval. Et finalement, un hélicoptère. À la mi-journée, 200 hommes sont sur les traces de Marie-Christine Odo. Sacrée mobilisation de la gendarmerie. En attendant, elle a été identifiée, cette femme. Ça s'écrit bien avec un H, H-O-D-E-A-U. Une équipe de gendarmes débarque chez elle. Elle vit là avec sa mère. Et elle a bien disparu. Elle était en train de faire son footing. Et elle n'est pas revenue. Moi, je commençais à m'inquiéter. Une joggeuse qui se fait enlever au cours de son footing. C'est un classique des affaires criminelles. Très bien, madame. Est-ce que vous connaissez le parcours qu'en prend votre fille quand elle va courir? Est-ce qu'elle a des habitudes? Je crois qu'elle passe toujours par la forêt. Elle fait une boucle qui passe par Oncy sur école et puis elle rejoint Milly-la-Forêt. Vous croyez que vous allez la retrouver? On va tout faire pour, madame Odo. Je vous promets. Les gendarmes en profitent pour récupérer quelques effets de la disparue. Alors il nous faudrait sa brosse à cheveux, si elle en a une. Sa brosse à dents aussi. Et puis des vêtements qu'elle aurait portés qui n'auraient pas été lavés. La brosse à dents et la brosse à cheveux, c'est pour récupérer son ADN. Et les vêtements, c'est pour son odeur, pour pouvoir les faire renifler à un chien. Ah, il nous faudrait une photo aussi. 42 ans, grande, blonde, sportive, souriante. Très jolie. Et d'après ce que dit sa mère, célibataire. Elle fait quoi dans la vie, votre fille, madame? Elle est assistante maternelle. Elle garde des enfants chez elle, quoi. Et ce matin, avant d'aller courir, vous savez ce qu'elle a fait? Ce qu'elle fait tous les jours, c'est-à-dire déposer les enfants à l'école. Vérification faite, on l'a bien vue à l'école. Des parents d'élèves ont discuté avec elle. Et par ailleurs, la mère a donné son numéro de portable. Mais il a été coupé. Il n'aimait plus. Au PC, à la gendarmerie, on s'est mis à la recherche de la voiture, c'est-à-dire la Peugeot 106, dont Marie-Christine Odo a donné l'immatriculation, ou plutôt un bout de l'immatriculation. Bon, elle a dit L, K et M. Regarde si ça colle avec une Peugeot 106. Négatif. Zut, dans la panique, elle n'a pas dû noter les bonnes lettres. Essaye en inversant les lettres. MKL ou LMK ou KLM. C'est bon, j'ai quelque chose, une Peugeot 106 avec les lettres KLM. Bingo! Le propriétaire de cette Peugeot 106 est un avocat parisien connu. Il habite dans le très chic 16e arrondissement et a priori, il n'a pas du tout le profil d'un ravisseur de joggeuse. Mais on ne sait jamais. Une équipe de gendarmes fonce à son cabinet. La stratégie des gendarmes est de poser des questions sans dire pourquoi ils sont là. Vous nous confirmez, monsieur, que vous êtes bien le propriétaire de cette Peugeot 106? Ah oui, oui. Oui, je vous le confirme. Mais pourquoi me posez-vous cette question? Ce véhicule, monsieur, est-ce qu'il est garé en bas de chez vous? Mais pourquoi vous voulez savoir ça au juste? Monsieur, le véhicule dont vous êtes propriétaire est impliqué dans un fait grave. D'accord. Eh bien, écoutez, cette voiture est celle de ma résidence secondaire. Elle est à Échileuse, dans le Loiret. Donc, elle est dans le Loiret. Et elle n'est pas à Paris. Vous savez si on vous l'a volée? Ah, mais non, j'en sais rien. Comment voulez-vous que je sache? Est-ce que quelqu'un d'autre que vous a l'habitude de l'utiliser? Enfin, c'est agaçant, toutes ces questions. Oui, oui, de temps en temps. Les gardiens qui s'occupent de la maison. Et ils s'appellent comment, ces gardiens, monsieur? Dacruz. C'est le couple Dacruz. Ça vous va? L'avocat a aussi donné l'adresse de sa résidence secondaire dans le Loiret. Elle se situe à 30 km de Milly-la-Forêt. À 10h45, une équipe de gendarmes débarque sur place, à la recherche des époux Dacruz. Waouh! Putain de maison, hein. Une belle maison de maître, même pourrait-on dire un château. L'avocat leur a dit que les Dacruz habitent une longère en bord de route. En échange de ce logement gratuit, ils assurent l'entretien de la propriété. Les gendarmes sonnent. Ils toquent. Personne. Les volets sont fermés. Ils ont dû s'absenter. Qu'importe, les gendarmes escaladent le portail et ils pénètrent dans la propriété. Et la surprise, la Peugeot 106 est là, devant eux. Un gendarme s'approche. Le moteur est encore chaud. Faudrait peut-être voir s'il n'est pas encore dans le coffre. Viens, on va péter la vitre arrière. Ils parviennent à ouvrir le coffre. Vide. Ok, on fouille le parc, on traîne pas. Mais rien de particulier à noter. Pas plus que dans la maison des gardiens que les gendarmes parviennent à ouvrir. La même équipe de gendarmes se lance ensuite dans une enquête de voisinage, porte à porte. Bonjour madame. Dites-moi, est-ce que vous connaissez les Dacruz, les gardiens du château? Ah ben oui, bien sûr. Vous savez où ils sont? On a besoin de leur parler de manière urgente. Ah ben, madame Dacruz, elle travaille à la boulangerie. Je peux vous donner son numéro, si vous voulez. Formidable. Les gendarmes appellent immédiatement. Madame Dacruz, c'est la gendarmerie ici. Je crois savoir que vous êtes au travail. Est-ce que vous pourriez revenir chez vous? Oui, chez vous. Il faut absolument qu'on vous parle. Et puis on aimerait aussi parler à votre mari. Oui, vous pouvez l'appeler et lui dire de venir aussi. Entendu, on se retrouve sur place. Hein.
Quand Madame Dacruz arrive au château, il y a des gendarmes partout. Autant vous dire que ça lui colle un coup de stress.
Merci d'être venue, Madame Dacruz. Votre mari, vous savez où il est? Il arrive? Normalement, oui. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il venait. Je pensais même qu'il serait là avant moi. En attendant, quoi qu'il arrive, madame, vous savez ce qu'il a fait hier soir et ce matin, votre mari? Est-ce qu'il a eu un comportement inhabituel? Est-ce qu'il avait l'air, je sais pas, bizarre, préoccupé? Moi, je me doute de pourquoi vous êtes là. Je le connais, mon mari. Je connais son passé. Et si vous êtes là, c'est qu'il a encore fait quelque chose de grave, n'est-ce pas? La dernière fois, je lui ai pardonné. J'ai fait ça pour les enfants, mais s'il a recommencé, là, je lui pardonnerai pas. Je suis prête à vous aider, à coopérer avec vous. Salut, tu peux passer un nom au fichier, s'il te plaît. Manuel Da Cruz, avec un Z. Je pense qu'il a fait de la prison.
Affirmatif. Il a été condamné à 11 ans de réclusion criminelle pour des faits de séquestration et de viol d'une jeune femme.
Renseignement pris, Manuel Da Cruz a 47 ans. Il est sorti de prison il y a un an. Il a travaillé quelque temps, mais il vient d'être licencié. Il ne lui reste plus que ce statut de gardien au matoufer au château. Sa femme dit que c'est un père de famille autoritaire. Lui, il fonctionne un peu à l'ancienne. C'est le patriarche, vous voyez. Sa femme a dit qu'il allait arriver. Alors les gendarmes l'attendent. Mais d'après vous, est-ce qu'il va venir? Si c'est lui, est-ce qu'il va venir se jeter dans la gueule du loup? Et puis s'il vient, en voyant tous ces gendarmes, il va se caleter en courant. Donc pas la peine de l'attendre, Marie-Christine a disparu. L'urgence maintenant, c'est de la retrouver, vite, et si possible vivante. Alors qu'est-ce qu'on sait sur ce Manuel Da Cruz? D'après ce fichier, il aurait une BMW. Dis, tu peux prévenir le dispositif aérien? Le suspect a une BMW. Les gendarmes se rencardent ensuite sur son passé de violeur. Les faits remontent à 2001, il y a donc 8 ans. À cette époque, il avait un peu moins de 40 ans, et d'après ce qu'on dit, il était porté sur la bouteille. Bon, voilà ce que j'ai pu réunir. Un jour, une jeune femme, une voisine de 13 ans, se présente chez lui. Elle s'appelle Morgane, et donc elle lui propose ses services pour faire du ménage ou toutes sortes de tâches ménagères. Bref, lui, il est un peu aviné. Il la fait monter de force dans sa voiture. Il l'emmène au fond des bois et il la viole. Alors, on a les déclarations de la gamine à l'époque. Hein. Elle a raconté qu'elle a eu l'impression qu'il voulait la tuer et qu'il a fallu qu'elle lui parle longtemps pour le raisonner et obtenir qu'il la relâche. Et là, elle dit qu'il s'est calmé et qu'il l'a libérée. Donc, il a été interpellé. Il a été jugé devant la cour d'assises d'Orléans pour viol. Il a été condamné à 11 ans de réclusion criminelle, il en a fait 6,5 et donc il est sorti il y a un an. Voilà tout ce que j'ai pu obtenir sur cette affaire. Écoute, c'est très intéressant ça. Et en même temps, c'est assez rassurant. Il a libéré sa victime à l'époque, donc c'est pas un tueur. Et donc à cette heure-ci, il paraît clair à 99% qu'il a violé Marie-Christine Audon. Faut pas se faire d'illusions. Mais il n'est pas certain qu'il l'ait tué. Ça nous laisse un peu d'espoir. Mais finalement, Manuel Da Cruz finit par rentrer au village au volant de sa BMW. Et il est immédiatement interpellé. Vous étiez où, monsieur? Ben, j'étais allé faire le plein d'essence à Pithiviers. C'est moins cher là-bas. D'accord, à part ça, ce matin, vous avez fait quoi, monsieur? Ben, je suis rentré chez moi. J'ai joué à la PlayStation. Et puis, je suis allé chercher une planche aussi. Bien, monsieur, je vous informe qu'à dater de cet instant, vous êtes placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire pour enlèvement et séquestration. On va vous emmener pour interrogatoire à la brigade de Milly-la-Forêt. Allez, c'est parti! Et voilà Manuel Da Cruz face aux gendarmes qui vont le cuisiner. Il faut faire vite. Il y a urgence. Si Marie-Christine est encore vivante, il faut la localiser et vite. Mais d'entrée, les gendarmes voient bien qu'il ne va pas craquer tout de suite. Il a le visage fermé, le regard sombre. On sent de la violence en lui. Il n'a pas du tout la tronche d'un homme prêt à collaborer. Bien, monsieur, nous allons commencer par effectuer des prélèvements. ADN, empreinte digitale, et puis vous prenez aussi de l'ADN qu'il pourrait avoir sur ses mains, hein, par tamponnage. Si on retrouve l'ADN de Marie-Christine sur ses mains, il est cuit.
En revanche, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose contre lui, si ce n'est la voiture, la 106. Sauf qu'on ne l'a pas arrêté au volant de cette voiture. Il pourra toujours dire que quelqu'un d'autre l'a volé. Bien, monsieur, je vais être très clair avec vous. Nous sommes à la recherche d'une femme qui s'appelle Marie-Christine Oudot, qui a disparu ce matin en faisant son jogging. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oh non ? Non, rien du tout. Nous avons des raisons de penser qu'elle a été enlevée avec la Peugeot 106 de votre patron, hein, propriétaire du château. Voiture que nous avons retrouvée moteur chaud, garée devant le château. Est-ce que ça vous parle, ça ? Je comprends rien à ce que vous me dites. Moi, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. D'après ce que nous dit le propriétaire de la voiture, monsieur, les clés de la 106 étaient accrochées dans le château, et pour y accéder, il fallait avoir les clés du château et le code de l'alarme. Il nous dit qu'en dehors de lui, de vous et de votre femme, personne n'a les clés et personne n'a le code. Alors nous écartons votre femme pour des raisons que nous n'avons pas à vous expliquer. Il ne nous reste plus que vous, monsieur. Alors je vous repose la question. Avez-vous, oui ou non, emprunté ce matin la Peugeot 106 de votre patron ? Mais non ! Moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Nous avons, monsieur, le témoignage d'un habitant du village. Il dit que ce matin, à 8 heures, il vous a vu au volant de cette Peugeot 106. Il dit même qu'il a été surpris parce que vous ne la conduisiez jamais. Et que par ailleurs, il est assez rare que vous partiez de chez vous aussitôt. Alors je vous repose la question, monsieur, avez-vous emprunté cette voiture ? Ça ne le déstabilise pas du tout. Il répète qu'il n'a rien à voir avec tout ça, que tous ces gens l'accusent à tort parce qu'ils sont jaloux de lui. Et les heures passent, et la nuit arrive, et le jour se lève. Il n'a pas bougé d'un iota. On en est à la 47e heure de sa garde à vue. Il ne reste plus qu'une heure pour le faire craquer. Sinon, s'il n'y a pas assez d'éléments contre lui, il faudra le relâcher. C'est à ce moment-là que tombent les résultats des analyses ADN effectuées par le labo. C'est bon, les gars, il est cuit. Sur sa main gauche, le labo a détecté son propre ADN, normal, mais aussi celui de Marie-Christine Oudot. Il ne reste plus qu'une heure de garde à vue. Bien, monsieur, nous avons identifié l'ADN de la jeune femme qui a été enlevée sur votre main gauche. Comment l'expliquez-vous ? Je comprends pas ce que vous me dites. Vous comprenez pas ? L'ADN de Marie-Christine Oudot est sur votre main gauche. Pourquoi ? Mais en face, ils n'ont qu'une bourrique qui s'entête à nier les évidences. Il ne craquera pas pendant sa garde à vue. Bien, monsieur, votre garde à vue est terminée. Vous allez être déféré devant le procureur de la République. Je vous le dis, monsieur, il y a un moment où il va falloir parler. Il y a un moment où il va falloir que vous parliez. Quelle frustration ! Ça fait 2 jours que Marie-Christine Oudot a été enlevée. Elle est peut-être encore vivante. Et si elle est vivante, il faut la retrouver vite. Manuel Dacruz est déféré devant le procureur. Et ensuite, il est présenté au juge d'instruction, puisqu'une information vient d'être ouverte. Et là, miracle ! C'est moi qui l'ai enlevée, cette fille. C'est moi qui l'ai enlevée. Elle est vivante ? Ou morte ? Pas de réponse à cette question. Le juge lui présente alors une carte. Il veut bien indiquer où elle est. Elle est ici, là. Et elle est dans ce bois. À Boissy, au Caille. Le juge informe immédiatement les gendarmes. Elle serait dans un bois à Boissy, au Caille. Oui, oui, en Seine-et-Marne. Le bois en question n'est pas bien grand. Il fait 100 mètres sur 300. Les gendarmes se mettent à fouiller avec des chiens. C'est pas facile. Il y a des ronces partout et la nuit est en train de tomber. Et soudain... C'est bon, je l'ai. Elle est vivante. Négatif, elle est décédée. Le corps n'est qu'à 200 mètres de la route. Il est posé dans une cavité naturelle. Il est nu, recouvert de branchages. Voilà. Ils ne sont pas arrivés à sauver Marie-Christine. C'est Rajan et c'est Manuel Dacruz qui l'a tué, évidemment. Dans la foulée, arrivent les gars de la scientifique, avec un équipement tout beau, tout neuf. Un bus baptisé Lab Unique. Il permet d'effectuer les premières constatations sur le corps de la victime dans une tente montée sur place. Ce qui limite évidemment la contamination du corps pendant son transport. Bien, messieurs, voilà ce qui résulte des premières constatations. Elle a été étranglée. Est-ce qu'elle a été violée, docteur ? Oui, sans doute, avec les réserves d'usage, il faudra le confirmer à l'autopsie, mais oui, elle a été violée, c'est probable. Aussitôt, l'interrogatoire de Dacruz reprend dans le bureau du juge. Bien, monsieur, nous avons retrouvé le cadavre de Marie-Christine Audeau sur vos indications. C'est vous qui l'avez enlevé et tué ?
Ouais,
c'est moi. Violée ? Vous l'avez violée ? Pas de réponse sur ce sujet. Mais pour le reste, il assume. Le juge le met en examen pour enlèvement et séquestration suivie de meurtre. Et les explications viennent après.
Ce matin-là, j'ai tout pas bien. J'ai pris ma voiture et je suis allé à Milly-la-Forêt. Et puis je me suis garé. Et puis j'ai attendu. Et puis j'ai vu passer cette femme et je sais pas, j'ai eu comme une pulsion et... Et je l'ai suivi avec ma voiture. Et puis je me suis garé dans un petit chemin. J'avais un couteau, je l'ai sorti. Je l'ai forcé à monter dans le coffre. Et j'ai repris la route. Madame Audeau a appelé la gendarmerie sur son portable. Vous avez entendu son appel ?
Ouais, je l'ai entendu, alors j'ai arrêté la voiture, je suis descendu. J'ai ouvert le coffre et puis je lui ai donné un coup de poing, quoi, et bien sûr, j'ai balancé son téléphone.
Et ensuite, monsieur ?
Bah, ensuite, je suis allé jusqu'au bois, je l'ai fait descendre, et puis je l'ai forcé à s'enfoncer dans le bois, et puis à un moment, je l'ai attaché.
Avec quoi vous l'avez attaché ?
Avec des fils électriques.
Et là, vous l'avez violé ?
Ouais.
Et tué dans la foulée ?
Non, je l'ai laissé attacher. Et puis je suis rentré chez moi. Je savais qu'elle avait donné la marque de la voiture et l'immatriculation. Et donc je suis rentré chez moi pour changer de voiture, pour prendre ma BM, quoi.
Et vous êtes revenu dans le bois pour la tuer ?
Non. À ce moment-là, je voulais pas la tuer. Et puis quand je suis arrivé dans le bois, elle était parvenue à se détacher, elle était plus là. Alors je me suis dit, elle doit être quelque part, sur le bord de la route, quelque part, pour chercher des secours. Et donc j'ai commencé à rouler avec ma voiture autour du bois. Et puis là, je l'ai vue, elle marchait sur le bord de la route. Et forcément, elle s'est pas méfiée, puisque j'avais changé de voiture. Alors je l'ai dépassée, et je l'ai attendue dans un coin, et c'est là que j'ai décidé de la tuer. Elle m'avait vu. Elle avait vu les deux voitures. J'étais coincé.
Et comment l'avez-vous tué ?
Moi, je l'ai étranglé.
Comment ?
Avec le t-shirt qu'elle portait.
En l'écoutant, on se met à la place de Marie-Christine, bien sûr. Elle a eu une mort effroyable. Effroyable.
Les obsèques de Marie-Christine Audeau ont lieu 9 jours après le meurtre, en l'église Notre-Dame de l'Assomption de Milly-la-Forêt. L'église est pleine à craquer. Et le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, est là.
Frères et sœurs, nous sommes là pour Marie-Christine. Nous ne sommes pas ni dans un tribunal pour juger, ni dans un hôpital pour soigner, ni au Parlement pour définir une politique. Cette cérémonie est celle du cœur, de la fraternité.
Et à la fin de la messe, le ministre fait une déclaration. Je suis venu exprimer au nom du président de la République, au nom du gouvernement tout entier, l'émotion qui est la nôtre, et partager la douleur avec la famille. Et dans la foulée, Il critique vertement les juges d'application des peines. Car Manuel Ribeiro da Cruz est un récidiviste qu'on a laissé ressortir. Avant la fin de sa peine. Et cette histoire tombe à pic pour illustrer les réformes que Nicolas Sarkozy veut engager contre la récidive. Finalement, le juge a décidé de changer le motif de mise en examen de Manuel da Cruz. Jusqu'ici, on parlait de meurtre. Désormais, il veut qu'on parle d'assassinat. Il pense qu'il a prémédité son geste. Depuis sa cellule, Manuel da Cruz écrit des lettres d'excuses à sa famille, lettres dans lesquelles il parle de se suicider. Et il passe à l'acte fin novembre. Il avale des médicaments dans sa cellule. Il est sauvé de justesse. On va pouvoir le juger. Le procès de Manuel Ribeiro da Cruz s'ouvre 2 ans plus tard, en novembre 2011, devant la cour d'assises d'Évry. Et comme l'affaire a été très médiatisée et que les politiques en ont fait leur chou gras, il y a foule sur les bancs de la presse, plus de 50 journalistes. Ce procès est marqué par 2 moments très forts. D'abord, le président fait écouter l'enregistrement de l'appel passé par Marie-Christine Audot depuis le coffre de la voiture. Un enregistrement sonore que les gendarmes ont calé sur les images de la reconstitution.
Allô ? Allô, on est en train de m'enlever. Je m'appelle Marie-Christine Audot et un homme avec un couteau m'a mis de force dans le coffre de sa voiture. C'est une Peugeot 106.
C'est bouleversant. C'est déchirant. Et puis on fait venir à la barre la première victime de da Cruz, Morgane. Et 10 ans après, elle raconte le calvaire qu'il lui a fait vivre.
J'étais vierge à l'époque. J'avais 13 ans. Ça a été très dur pour moi de me reconstruire. D'autant plus que je savais qu'il allait recommencer. Je savais qu'il allait recommencer.
Que voulez-vous que plaide l'avocat de da Cruz après ça? Il fait ce qu'il peut. Il fait le métier.
Monsieur da Cruz réagit davantage à des pulsions qu'il ne réfléchit. Il serait peut-être plus inquiétant s'il était plus intelligent.
Le verdict traduit évidemment la volonté de faire barrage à la récidive. Manuel Ribeiro da Cruz est condamné à la peine la plus lourde prévue par le code pénal. Perpétuité assortie de 22 ans de sûreté.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.
Avant de vous laisser, une excellente nouvelle pour vous. Désormais, vous avez la possibilité de vous abonner à On de la Traconte Premium sur Apple Podcast. Pour 2,49€ par mois, vous pouvez écouter mes histoires avant tout le monde et entendre une sélection de récits que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors abonnez-vous dès maintenant sur Apple Podcast.